tout le monde il est beau, et le progrès nous sourit.
La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offrent des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
À la suite de la lecture et en illustration de la période 1990-2000, vous entendrez de Rodion Chedrin, musique pour la cité de Köthen.
Les opérettes du Puy du Fou, par Michel Vauvel. Le parc thématique du Puy du Fou, qui met à l'honneur le patrimoine et la mémoire de la Vendée des Chouans, est une véritable ode à l'Ancien Régime, dont il propose une vision mythifiée et nostalgique. Monsieur Philippe de Villiers, son fondateur, a construit une usine à rêves qui se veut aussi une machine de guerre idéologique contre l'héritage de la Révolution française. Lorsque la nuit tombe sur le Puy du Fou, au cœur de la Vendée, des milliers de spectateurs qui garnissent les gradins de la tribune se sont déjà accoutumés au cadre de la scénographie. Au premier plan, une ère d'évolution pour les effets de masse sur fond d'un vaste plan d'eau qui met en valeur la ruine entretenue du château. Se devine l'intérieur de la chaumière où se déroulera la veillée. C'est là que se rendra le récitant dont la voix ouvre le propos. De métairie en métairie, il porte avec lui l'histoire. Je suis la mémoire du soir, je marche avec les siècles de famille en famille. Refuge des valeurs, la famille dans sa pérennité, les mots piliers, où l'on s'appelle Jacques de père en fils, est le réceptacle de la mémoire que transmet le vagabond. Les grandes coulées du siècle, ouvertes en fanfare sur l'évocation d'un monde perdu, celui d'un Moyen-Âge imprécis, renvoyant à l'ombre du vieux château, à l'unanimisme d'une société heureuse. Dans une kermesse bruegelienne bien sage se mêlent les vagabonds, les défricheurs et les écuyers. Le bon temps que celui de la fête, sur fond de danseries médiévales et d'une musique appropriée, voici le tournoi et les exercices de la quintaine. Une harmonie que ne trouble pas les échappées sur le monde extérieur, puisqu'elles prennent les traits de la réception du roi François Ier par la châtelaine du lieu, Catherine, une dame un peu folle qui glisse comme un songe italien. La corne du guetteur et des galopins appellent le bon peuple à partager ses fastes. Retour au labeur quotidien, au rythme des travaux et des jours sur les termes de la charrette de foin qui ouvre la vision pastorale de l'Ancien Régime. Calme, champêtre, rythmé par la prière des cloches et de l'angélu de l'aube. J'aime l'appel des cloches. Mais pourquoi ont-ils fait taire les cloches? Plus qu'une péripétie, voici la rupture, l'intrusion de l'histoire qui bouge et déchire la trame de l'histoire immobile. Lugubre, le fond sonore orchestre le lamentant revendicatif. Ils ont proscrit les prêtres légitimes, réquisitionné les hommes, provoqué la révolte. Ils, sur fond de ténèbres, la troupe de l'armée du mal envahit la scène. Voici le haut moment du spectacle. Embusquée dans ses chemins creux, la Vendée tout entière se soulève. Chaque homme est un croisé, chaque homme est un martyr. La brillante cavalcade des chevaliers d'antan, sous de nouveaux atours, traverse à nouveau la Seine, chef redoutable et superbe, François de Charette, Charles de Bonchamp, ceux qui portaient le drapeau de l'armée catholique et royale de la Vendée. Éphémère triomphe. Le château s'embrase dans une apocalypse pyrotechnique. Le haut moment non seulement de la séquence, mais du spectacle est la mort de Bonchamp au lendemain de la défaite de Cholet. Porté sur un brancard, le chef vendéen lève « Grâce aux prisonniers » répond-il. À genoux, les enfants, un cantique, marche funèbre clôt le tableau. Magnanimité qui met en valeur l'incendie, le massacre, la mort de la petite fille perpétrée par les républicains.
Voici le haut moment du spectacle. La Vendée tout entière se soulève. Chaque homme est un croisé, chaque homme est un martyr.
Vendée martyr. Au lendemain du drame, les consolations de la religion bercent la peine, cependant que le pays des Alouettes reprend son quotidien avec ses vieux outils. La cloche sonne à nouveau, le coq chante, en écho mais affaibli de la grande fête médiévale, la fête sous la Troisième République. On la situe vers 1880, donne l'occasion de danse folklorique et suggère discrètement l'adaptation mesurée à un nouveau monde. Joie en demi-teinte, les conscrits rentrent dans la fête en chantant tristement comme dans le grand moule. L'État national les promet à un autre destin. C'est la guerre où les Vendéens souffrent pour une cause lointaine dont on se demande si elle est bien la leur. Certains reviendront et sur un rythme qui commence à s'essouffler, le quotidien reprend ses droits. Pas tout à fait à l'identique car la modernité pénètre. Les jeunes s'en vont à l'usine et au chemin de fer on inaugure la gare. Son de cloche, chant de coq, chien au loin. La Vendée n'est pas quitte pour autant. On entend à nouveau des bruits de bottes, une sirène. Encore une guerre, mais le pays la vit désormais par délégation. La Seconde Guerre mondiale est réduite à l'épisode de l'arrivée des réfugiés des Ardennes, comme on écho aux misères de la Vendée révolutionnaire. Seule l'effigie en gros plan du général Jean de Lattre de Tassigny, un enfant du pays, suggère qu'il a pu se passer quelque chose. Pulsion identitaire satisfaite. Le tout s'achève sur ce qui voudrait être le travail de la mémoire, la dernière veillée, la chandelle qui s'éteint, filet d'âme, filet de légende évanescente sous la forme de farfadet glissant sous l'eau profonde. Le vieux vagabond va mourir par une nuit d'hiver, laissant son sac à nouvelles. Peut-être les enfants ont-ils recueilli, avec la mémoire de cette terre de géants et de genêts en fleurs, qui, orchestrée par M. Philippe de Villiers, est transmise à la face du monde dans un final triomphal où défilent une dernière fois les héros chevaleresques de cette épopée. Le spectacle du Puy du Fou comporte certes tous les ingrédients attendus. Tabou vivant particulièrement fourni et réglé, du folklore mais pas plus qu'il n'en faut, de l'action, du rêve et de la poésie, même si l'on peut rester imperméable à l'évocation des farfadets. La musique est filmique à souhait, pyrotechnie et effets spéciaux, projection laser d'images en gros plan renforce le trait, alternant avec les séquences intimistes, les cavalcades et les effets de foule. Mais surtout, il est porteur d'un discours livrant à travers la vision du monde de l'auteur du scénario, M. de Villiers, les thèmes d'une légende et d'une mémoire à la fois héritée et reconstruite. Le texte, soigné, lyrique, emphatique souvent, reflète un savant mélange d'archaïsme et de modernité. Modernité, c'est l'histoire vue d'en bas qu'on évoque. Celle du peuple, d'un peuple marqué par une destinée particulière. Celle des Jacques. Mais à travers lui, tout le mythe de la communauté et de ses solidarités naturelles. La famille, noyau dur dans sa continuité, les solidarités villageoises cimentées par la religion, les hiérarchies naturelles, enfin, d'un ancien monde chevaleresque où les messieurs qui en sont les héritiers se mettront tout naturellement avec leur bravoure et leur générosité, à la tête d'un peuple meurtri, héros distingué au cœur du héros populaire collectif. Dans l'harmonie de cet univers clos, l'autre monde, l'extérieur, la République ou la modernité fait une intrusion ravageuse ou pas réglée de ses soldats, c'est la guerre, la mort et le massacre. Dépossédé de son histoire, ou plutôt du rythme long de sa vie ancestrale, le peuple vendéen, après en avoir écrit une page héroïque, se survit dans la mémoire entretenue, perdue, peut-être retrouvée. M. de Villiers, utilisant les ingrédients les plus éprouvés du légendaire vendéen élaboré par les auteurs du XIXe siècle, évite les chromos trop visibles d'une kermesse paroissiale, prêchant le pardon des offenses, unissant dans une même compassion les morts de l'un et l'autre camp. Ce rallié introduit le drapeau tricolore dans la fête fin de siècle, mais le cœur n'y est plus. Reste le paradoxe de l'extraordinaire succès de cette histoire désespérante focalisé sur un passé magique. Il convient pour le comprendre de quitter le spectacle pour regarder alentour.
Ce passéoscope a contribué à laïciser une entreprise qui s'est masquée sous un œcuménisme de bon ton, le discours marqué dont elle est porteuse.
Née de l'idée d'un homme, l'entreprise n'en est pas moins une aventure collective, appuyée sur l'association de 15 communes et sur le bénévolat. Pulsion identitaire satisfaite dans ce monde rural structuré de longue date, en recherche de ses traditions et de sa fierté. Tous sont enthousiastes du service d'accueil aux acteurs anonymes des villages, reconstitués en nébuleuses, correspondant à des ateliers, écuries, vestiaires, dépositaires de milliers de costumes, des lieux de sociabilité locale où l'on se retrouve avant et après le spectacle sous l'autorité débonnaire des chefs de village. Vitrine de la prospérité vendéenne. Ce microcosme reconstitue ainsi à sa manière la communauté perdue, à chacun sa tâche ou ses tâches. Des jeunes, des vieux, des fidèles qui amènent leurs enfants pour y tenir leur ancien rôle. Que la durée n'ait point engendré la lassitude est sans doute l'une des preuves les plus manifestes d'une conviction soutenue, car le succès a conduit à élargir considérablement le champ des activités. À la cinécénie nocturne, s'est adjoint sur la vaste étendue du domaine le grand parcours diurne, qui se veut un véritable livre ouvert au pays de la mémoire. Aux touristes, il offre en continu comme l'illustration et le commentaire du spectacle de la nuit. Il a son village reconstitué où travaillent des artisans en costume d'époque, son lieu de dressage et de démonstration équestre où l'on retrouve l'atmosphère du tournoi, son cheminement souterrain reconstituant les épisodes de la guerre de Vendée, à quoi l'on ajoutera les jeux d'eau, la démonstration des fauconneries, l'arboretum et le jardin Renaissance, et deux restaurants dans la couleur locale. Si l'on ajoute les activités qui s'adressent à un public plus local, école de dressage et centre équestre, troupe théâtrale active durant la morte saison, on comprend mieux à la fois la complexité et le pouvoir fédérateur de ce centre d'impulsion. Tout cela coûte cher mais rapporte gros. Les organisateurs insistent à juste titre sur la modernité et la sophistication de tout l'appareillage audiovisuel, sur la technicité requise pour faire marcher cette entreprise. Le bénévolat général répond à une partie des problèmes, mais les soutiens des pouvoirs locaux comme des entreprises à la fois locales et nationales ont facilité les choses. L'ensemble est rentable, fût-ce à but non lucratif, à l'image d'une prospérité vendéenne dont il se veut une des vitrines. Un commode repère historique. Le public vient aujourd'hui de la France entière. Quart du troisième âge, quart scolaire, touristes de l'été sur le chemin de la côte. Sur les circuits organisés dans la France de l'Ouest, si l'étape s'impose désormais au Futuroscope, près de Poitiers, il en va de même pour le Puy du Fou, le Passéoscope. La réussite technique y est pour quelque chose, de même que le souci de diversification des prestations. Il a contribué à laïciser une entreprise qui s'est masquée sous un œcuménisme de bon ton, le discours marqué dont elle est porteuse. Et lorsqu'on est choisi, comme ce fut le cas en 1992, comme lieu de départ du Tour de France, c'est bien la preuve qu'on est devenu une institution nationale. On peut dès lors se permettre d'y recevoir en grande pompe le mage, l'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn, pour proférer un anathème solennel contre toutes les révolutions subversives de l'ordre naturel et divin. Reste que nous n'avons répondu qu'à la moitié de la question. La mémoire que transmet le spectacle du Puy du Fou, sous sa forme rajeunie, est tout sauf innocente. Sa vision passéiste du monde, l'éclairage qu'elle donne sur l'histoire nationale, si elle trouve localement un terreau fertile, comment peut-elle être reçue d'un public qu'on pourrait supposer détenteur d'une culture, au moins élémentaire, façonnée par l'école républicaine? Sans doute n'y voit-il que du jeu, là où l'historien décrypte un message à peine codé. Au vieil historien maison qui, fort affable, s'enquérait de savoir si j'avais quelques connaissances historiques, j'ai répondu évasivement. J'espère qu'il ne verra pas en moi un espion des bleus. Est-il l'auteur de la plaquette trouvée à l'hôtel qui n'a pas encore pardonné à Louis XVIII d'avoir versé à la veuve de Robespierre la pension refusée à celle de Jacques Catelineau, généralissime de l'armée catholique et royale. Trêve de plaisanterie. À des Français qui ont trop souvent perdu leur repère historique, cette affirmation identitaire de la Vendée, région mémoire, en donne un commode. Reçue au Puy du Fou, des élus locaux du centre de la France ont déploré de n'en avoir pas l'équivalent dans leur terre jacobine. À quand un Puy du Fou républicain ?
Thank you. Thank you.